La Bible révèle que la fin de toutes choses est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ.
Nous allons, avant d'entrer dans ce message, invoquer la présence du Seigneur par la prière et je vous invite là où c'est possible à pouvoir vous prosterner avec moi. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tous les bienfaits que tu as déversés sur nous. Et en ce temps où nous sommes confinés à cause d'un virus qui sévit au dehors, à l'extérieur, nous réalisons que nous ne sommes pas à l'abri de virus qui sévissent aussi au-dedans de ton Église. Et Seigneur, nous réalisons que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre des esprits mauvais. Et c'est pour cela que nous te demandons l'armure complète, afin de remporter la victoire. Nous te demandons, en cet instant, de neutraliser toutes les puissances sataniques, de sorte que ton peuple puisse recevoir instruction et que ta volonté soit faite dans notre vie comme elle est faite au ciel. Bénis ton serviteur, afin qu'il soit complètement effacé et que toi seul puisses parler et que par ton esprit tu puisses convaincre en matière de péché, de justice et de jugement. Merci de ton amour. Merci pour Jésus qui a versé son sang pour nous et qui non seulement pardonne mais purifie nos iniquités. Bénis ce moment. Nous t'en prions au nom de Jésus, Père. Amen. Le titre de ce message est « En danger parmi les faux frères ». Ce titre est très révélateur. L'objectif de ce sermon n'est pas tellement de m'aider, moi, à savoir qui sont les faux frères, mais plutôt de m'aider à savoir si je ne suis moi-même pas un faux frère. En effet, je prendrai ce message pour moi-même. Et je t'invite, mon ami, qui écoute et suit ce message, à en faire de même pour toi. Car il est trop facile de regarder la paille qui est dans l'œil de l'autre alors que l'on a une poutre dans le sien. Le texte de base de ce sermon se trouve en 2 Corinthiens 11, versets 26 à 28, où nous lisons de la plume de l'apôtre Paul, « J'ai été souvent en voyage, en danger sous les fleuves, en danger de la part des voleurs, en danger parmi ceux de ma nation, en danger parmi les gentils, en danger dans les villes, en danger dans les déserts, en danger sous la mer, en danger parmi les faux frères, dans les peines, dans les travaux, dans de fréquentes villes, dans la faim, dans la soif, souvent dans les jeûnes, dans le froid et dans la nudité. Et chaque jour, sans parler des autres choses, je suis assiégé par les soucis de toutes les églises. » Notez la façon dont Paul développe les dangers qu'il a servissait, qu'il assiégeait. Il y a là ici une graduation. Et le dernier danger qui est présenté est de ce fait présenté comme le plus grand, qui est celui des faux frères. Le terme traduit par faux frère vient du grec pseudadelphos. Et ce terme se compose de pseudès, qui signifie faux, c'est-à-dire erroné, trompeur, méchant, par extension faux, menteur, et de adelphos, qui signifie frère. En d'autres termes, il s'agit d'un frère trompeur, un frère méchant, menteur, qui professe être un associé, mais qui en réalité ne l'est pas. Ce terme apparaît une deuxième fois dans le Nouveau Testament, en Galates chapitre 2, versets 1 à 5, où nous lisons « 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas et je pris aussi Tite avec moi. Or, je montais d'après une révélation et je leur exposais, et en particulier aux plus considérés, l'évangile que je prêche parmi les gentils, de peur que je ne courusse ou que je n'eusse couru en vain. Et même Tite, qui était avec moi, quoiqu'il fût grec, ne fut point obligé de se faire circoncire, et cela à cause des faux frères, introduits furtivement, qui s'étaient insinués pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, afin de nous réduire en servitude. Nous ne consentîmes pas même un seul moment à nous soumettre à eux, afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. » Pourquoi Paul avait-il refusé de circoncire Tite alors qu'il avait accepté de circoncire Timothée? Timothée, qui était lui-même un Galate, mi-juif, mi-gentil, avait été circoncis au début de son ministère comme une concession aux préjugés des Juifs, tel qu'on peut le lire en Actes 16, versets 1 à 3. Pour mieux comprendre le principe en question, nous pouvons aussi lire 1 Corinthiens 9, versets 21 à 23. La concession ici, ou le compromis si vous voulez, était ici non pas dans le principe, mais dans la pratique. Et il était destiné à faciliter la prédication de l'Évangile parmi les Juifs des pays païens. Mais dans le cas de Tite, qui était un gentil à 100%, cela était différent. Si l'apôtre avait consenti à circoncire Tite, il aurait renié son Évangile et admis par là que cette forme extérieure, la circoncision, était essentielle au salut. Il n'a alors rien cédé aux exigences de ceux qu'il qualifie de faux frères, lesquels étaient en fait de faux docteurs qui avaient tâché d'égarer les croyants de Galatie. L'objectif de Paul, en mentionnant l'incident impliquant Tite, est de citer un cas où les apôtres eux-mêmes n'ont pas exigé la circoncision d'un gentil converti. Et le texte qui nous démontre cela se trouve en Actes 15, versets 1 à 2, dans un premier temps, et ensuite on va lire le verset 22 à 29. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi lire tout le chapitre lorsque, une fois le message terminé. Mais pour gagner du temps, nous allons prendre ces deux passages-là, au début et à la fin. Acte 15, versets 1 et 2, devrais-je dire. « Or, quelques personnes venues de Judée enseignaient les frères en disant, « Si vous n'êtes circoncis selon l'usage de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Une grande contestation et une dispute s'étant donc élevée entre Paul et Barnabas, et eux, il fut résolu que Paul et Barnabas et quelques-uns d'entre eux monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour traiter cette question. Et nous allons voir quel fut le débouché, quelle fut la finalité de cette affaire, comment cela fut traité. Au verset 22 jusqu'au verset 29, alors les apôtres et les anciens avec toute l'église jugèrent à propos d'envoyer à Antioche des hommes choisis parmi eux, avec Paul et Barnabas, savoir Jude, surnommé Barsabas, et Silas, homme considéré parmi les frères. En écrivant ceci, par leur intermédiaire, les apôtres, les anciens et les hommes à nos frères d'Antioche, de Syrie et de Cilicie, d'entre les gentils, salut. Comme nous avons appris que quelques personnes venues de chez nous vous ont troublé par leur discours et ébranlent vos âmes en disant qu'il faut être circoncis et garder la loi, ce que nous ne leur avons point ordonné, il nous a paru bon, d'un commun accord, de vous envoyer des hommes choisis avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas qui vous annonceront de bouche les mêmes choses. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne point vous imposer d'autres charges que les nécessaires, savoir que vous vous absteniez de ce qui a été sacrifié aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de la fornication, desquelles choses vous ferez bien de vous garder à Dieu. L'Église, sous la conduite du Saint-Esprit, avait en fait pris une position que Paul avait préalablement défendu. Et cette expression du corps fut envoyée à ces églises locales de manière à ce qu'elles puissent savoir que dans son ensemble, l'Église avait statué. Il ne s'agissait pas donc simplement d'un enseignement de Paul, mais cela était bel et bien appuyé par l'Église dans son ensemble, sous la conduite de l'Esprit de Dieu. L'œuvre que ces docteurs judaïsants ont accompli à ce moment-là, fut les prémices de la grande apostasie dont il nous est parlé en 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 7. Et dans Christian Experience and Teaching of Ellen G. White, à la page 241, paragraphe 1, nous lisons « Les Écritures prédisent une grande apostasie qui, même au temps des apôtres, avait commencé à se manifester parmi certains faux frères dans l'Église, et qui devait finalement se développer par une apostasie, ainsi que la révélation de l'homme de péché, le fils de la perdition, au sujet duquel Paul écrivit aux Thessaloniciens, et on cite, et on donne la référence de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 7. Ce faux enseignement, une fois développé avec le temps, conduirait à la mise en place de la papauté. Tout faux enseignement conduisent à la grande apostasie. La grande apostasie qui nous est parlée en Apocalypse 13, où l'homme de péché, sous le symbole de la bête qui monte de la mer, après être guéri, eh bien, à nouveau, remonte sur la scène mondiale et captive l'admiration de toute la terre. Il faut juste du temps, pour que, au final, on ne soit conduit dans ce camp. Mais il s'agit pour nous ici de réaliser qu'il y a bien plus que cela. Qu'est-ce qui motivait ces hommes à enseigner de telles choses? Dans l'ouvrage « L'histoire de la rédemption » à la page 318, paragraphe 2, il est dit, concernant ce passage que nous avons lu en Actes, « Le corps entier des chrétiens ne fut pas appelé à statuer sur ce différent. Ce furent les apôtres et les anciens, hommes influents et au jugement saint, qui rédigèrent et publièrent le décret, lequel fut généralement accepté par les églises chrétiennes. Cependant, tous ne furent pas satisfaits de la décision qui avait été prise. Un groupe de faux frères décidèrent d'entreprendre un travail sous leur propre responsabilité. Ils se complurent dans la critique, proposèrent de nouveaux plans et cherchèrent à saper l'œuvre accomplie par des hommes expérimentés que Dieu avait choisis pour prêcher la doctrine du Christ. Dès les origines, l'Église rencontra de tels obstacles auxquels elle sera confrontée jusqu'à la fin des temps. » Jusqu'à la fin des temps, mes amis. L'Église sera confrontée à de telles choses. Voulez-vous entendre un message pour votre temps? Si votre réponse est oui, vous êtes au bon endroit, mes amis. Car ce sermon est un sermon pour la fin des temps. Notez que il est dit un groupe de faux frères. Dans un autre passage, la messagère du Seigneur substitue cette expression de manière suivante. Conquérant pacifique, à la page 174, paragraphe 1, le corps entier des chrétiens ne fut pas appelé à se prononcer sur cette question. Ce furent les apôtres et les anciens, hommes influents et au jugement saint, qui rédigèrent et émirent le décret accepté en général par les églises chrétiennes. Cependant, tous ne furent pas d'accord au sujet de la décision qui avait été prise. Quelques frères, ambitieux et suffisants, la désapprouvèrent. Ils décidèrent donc de travailler pour le Seigneur sous leur propre responsabilité. Ils se complurent dans la critique, proposèrent de nouveaux plans de travail et cherchèrent à saper l'influence des hommes que Dieu avait choisis pour prêcher l'Évangile. Dès ses débuts, l'Église rencontra de tels obstacles et elle en rencontrera toujours jusqu'à la fin des temps. Ces faux frères qui avaient amené ce faux enseignement étaient en réalité, nous dit-on ici, des frères ambitieux et suffisants. Ambitieux, c'est-à-dire qu'ils ont envie de monter, de se placer plus haut. Ils n'apprécient pas le niveau où est-ce qu'ils sont. Ils ne sont pas parmi les ministres. Et suffisant signifie que c'est leur avis qui prime. Ils n'ont pas besoin des autres pour fonctionner. Ils se suffisent à eux-mêmes. L'esprit d'église ne les intéresse pas. C'est plutôt l'esprit de ministère indépendant qui les intéresse. Voilà le genre de personne qui étaient ses faux frères. Et voyez-vous, il nous a été dit dans la lettre numéro 1 à la, de l'année 1883, paragraphe 41, au milieu de tous ces conflits, ceux qu'il, à savoir Paul, a le plus ressenti furent les épreuves amenées par les faux frères. Ce n'était pas la faim, la soif, la nudité, les persécutions qui furent le plus dur pour l'apôtre. Mais ce fut l'influence des faux frères. L'influence des faux frères qu'est le plus grand danger pour l'Église. Voyez-vous, il ne s'agit pas, comme nous le voyons, simplement de faux docteurs. Faux frères implique également, et nous allons le voir, ceux qui n'aiment pas leurs frères, ceux qui n'ont pas d'amour fraternel. Parmi les termes dérivés de adelphos se trouve philadelphos. Philadelphos se compose de philos, qui signifie aimer, et de adelphos, comme vous le savez, qui signifie frère. Ainsi, philadelphos, c'est aimer, affectionner, avoir une affection fraternelle, aimer fraternellement. Et ce terme est présent en 1 Pierre 3, verset 8, où il nous est dit « Enfin, ayez tous les mêmes pensées et les mêmes sentiments, soyez à moitié remplis d'amour fraternel. » C'est ce qui est marqué là? Je vous pose la question, est-ce que c'est ce qui est marqué là? Il est dit « Enfin, ayez tous les mêmes pensées, les mêmes sentiments, soyez pleins d'amour fraternel, de compassion, de bienveillance. » De philadelphos tire son origine un autre terme, qui est Philadelphia, que l'on retrouve dans les passages suivants, en Romains 12, versets 9 à 11. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Quant à l'amour fraternel, soyez pleins de tendresse les uns pour les autres. Quant à l'honneur, prévenez-vous les uns les autres. Quant au zèle, ne soyez point paresseux. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Suis-je rempli d'amour fraternel à l'égard de mes frères et sœurs? Ma conduite à leur égard est-elle sans hypocrisie? Un autre passage se trouve en 1 Thessaloniciens 4, verset 9. « Pour ce qui concerne l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous-même, vous avez appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. » J'aime mon frère, ma sœur, parce que Dieu m'a appris à aimer. Autrement dit, si je n'ai pas d'amour fraternel pour mon frère ou ma sœur, c'est qu'il y a des leçons que je n'ai pas encore apprises. Et que de ce fait, j'ai un besoin particulier de la parole de Dieu, de ce qui est écrit. J'ai besoin que l'on m'instruise, car je suis ignorant, dit le chant. L'amour fraternel n'est pas quelque chose de passager. Comme on peut le lire en Hébreux 13, verset 1. Que l'amour fraternel demeure. Ce n'est pas quelque chose qui est optionnel. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire pendant un temps. Ce n'est pas non plus quelque chose que l'on peut essayer d'afficher en façade. Alors que dans notre cœur, il n'en est pas ainsi, Car rappelez-vous le premier passage que nous avons lu, qu'il soit sans hypocrisie. En 1 Pierre 1, versets 22 et 23, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité par l'Esprit pour avoir un amour fraternel et sans hypocrisie, aimez-vous en constance les uns les autres d'un cœur pur, étant régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole de Dieu qui vit et qui demeure éternellement. » Lorsque j'ai l'amour fraternel pour mes frères et sœurs, cela signifie que mon âme a été purifiée par la vérité. Que la parole de Dieu a eu son effet. Inutile donc de vous dire que si je n'ai pas d'amour fraternel pour ceux qui m'entourent, c'est que mon âme n'a pas été purifiée. En 2 Pierre 1, versets 5 à 8, nous lisons « Ainsi, y apportant tout votre zèle. » Est-ce que c'est quelque chose qu'il nous faut faire d'une manière ambivalente, d'une manière nonchalante? « Y apportant tout votre zèle, dit l'apôtre, ajoutez à votre foi la vertu la science, et à la science la tempérance, et à la tempérance la patience, et à la patience la piété, et à la piété, l'amour fraternel, et à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous et y abondent, elles ne vous laisseront ni oisifs, ni stériles dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Je peux avoir de la foi, c'est bien. Je peux avoir des connaissances, c'est bien. Je peux avoir et respecter la réforme sanitaire et être très bon missionnaire médical. C'est très bien. Mais si je n'ai pas d'amour fraternel, il y a des échelons que je n'ai pas encore franchis. Et tant que je n'aurai pas atteint le dernier échelon, qu'est la charité, l'amour agapé. Ce qui laisse sous-entendre que si je n'ai pas d'amour fraternel, en fait, je n'ai pas l'amour agapé, en fait. Puisque c'est des échelons, en fait, ici dont il est parlé. L'amour inconditionnel. Pour l'avoir, il me faut d'abord être en mesure d'avoir de l'affection fraternelle, en fait. Nous allons le voir à la fin de la présentation. Car si ces choses sont en vous et y abondent, elles ne vous laisseront ni oisifs ni stériles dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Je peux avoir la connaissance du Fils de Dieu. Mais sans amour fraternel, mes amis, la Bible déclare que je suis stérile. Rappelez-vous que de Philadelphos est dérivé Philadelphia. Mais aussi, nous avons un autre terme qui est dérivé de Philadelphos, qui est Philadelphia, okay, duquel vient Philadelphie, dont, au sujet de laquelle nous pouvons lire en Apocalypse 3, versets 7 et 8, écrit aussi à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, qui ouvre et personne ne ferme, et qui ferme et personne n'ouvre. Je connais tes œuvres, et voici, j'ai ouvert une porte devant toi, et personne ne peut la fermer, parce que tu as eu peu de force, que tu as gardé ma parole, et que tu n'as point rogné mon nom. Voici, je t'en donnerai de la synagogue de Satan, qui se disent juifs, qui ne le sont point, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, afin qu'ils se prosternent à tes pieds, et qu'ils connaissent que je t'ai aimé. Cette église de Philadelphie est en fait la sixième période de temps de l'ère chrétienne concernant l'histoire de l'Église. Car les sept églises de l'Apocalypse représentent l'Église du Christ à travers sept périodes de temps. Et Philadelphie en est la sixième. Et nous pouvons localiser cette période de temps dans le message même qui est donné par Jésus à cette Église. Car il est dit qu'il ouvre et personne ne ferme. Et qu'il a ouvert une porte que personne ne peut fermer. Cette porte est celle du lieu très saint, du sanctuaire céleste, laquelle fut ouverte le 22 octobre 1844. Par voie de conséquent, il s'agit de l'Église qui a vécu avant l'ouverture de cette porte-là. Car à compter du 22 octobre 1844, la période de temps dans laquelle nous basculons est la suivante. Mais restons un moment sur cette Église de Philadelphie. C'est l'Église de l'amour fraternel. Et cela est exprimé dans le verset. Car il est dit, « Voici, je t'en donnerai de la synagogue de Satan qui se disent juifs et qui ne le sont point, mais qui mentent. » Remarque que Jésus cible le problème du mensonge, non pas à l'intérieur de l'Église de Philadelphie, mais à l'extérieur. Ses frères ne se mentaient pas l'un à l'autre. Mais la chose change lorsqu'on arrive dans la septième et dernière église de la Odyssée. Écrit aussi à l'ange de l'église de la Odyssée, « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Oh, si tu étais froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède, ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche, car tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et que tu ne connais pas que tu es malheureux et misérable et pauvre et aveugle et nu. Notez la condition de cette église. À compter du 22 octobre 1844, car nous pouvons savoir qu'il s'agit de cette date-là lorsque nous étudions la prophétie de Daniel 8, verset 14. Les 2300 soirs et matins, qui sont 2300 jours prophétiques ou années littérales, qui commencent en 457 avant Jésus-Christ et qui aboutissent en 1844. Nous pouvons savoir qu'il s'agit de cette date, comme je le disais, car Laodicée signifie le peuple du jugement. Or, c'est à ce moment-là que commence le jugement investigatif. Et notez que les membres de cette église ne sont ni froids ni bouillants. Ils sont d'une manière, mais en même temps d'une autre. Ils sont suffisamment à droite pour passer à droite et suffisamment à gauche pour passer à gauche, pense-t-il. Et l'amour fraternel est encore plus caractérisé lorsque l'on voit la présence constante du pronom personnel je. Dans le message à la Philadelphie, ce pronom n'est pas imputé à la bouche des membres de l'église de Philadelphie. Mais pour les membres de l'église de Laodicée, il est souvent présent. Cela manifeste un égoïsme, lequel vient directement s'opposer à l'altruisme. Ce changement d'attitude et d'esprit se vérifie dans l'histoire même du mouvement adventiste. Dans la lettre 28 de l'année 1872, paragraphe 10, la messagère déclara « Nous avons reçu votre dernière lettre contenant vos menaces. Tout ce que nous avons à dire à ce sujet, c'est que Dieu vit et règne. Et s'il vous permet de réaliser les desseins de votre cœur naturel, il prendra soin des conséquences. Vous assumerez l'œuvre que vous faites. Vous pouvez être une odeur de vie pour la vie ou une odeur de mort pour la mort. Si c'est la dernière, que Dieu ait pitié de vous, car vous aurez besoin de sa pitié. Je ne suis pas du tout ému par vos menaces. Je m'attends à de telles choses. De toutes les épreuves qui ont affligé la vie de Paul, aucune n'était égale à celle que lui infligèrent les faux frères. » Ce paragraphe est tiré d'une lettre qui fut adressé par Ellen White à un frère même de son église, lequel l'a menacé. Lorsque nous menaçons quelqu'un, encore plus un frère, cela est loin d'être une petite chose. Mais pensez-vous que les faux frères, qui étaient une menace pour les fidèles serviteurs de Dieu, dont Ellen White faisait partie, n'étaient que des frères anonymes, loin de l'œuvre, en dehors du ministère? La déclaration suivante sera pour certains, un choc. Dans la lettre 13 de l'année 1869, paragraphe 20, l'ancien Lord Bohod n'avait pas raison. Il commença à se construire sur ce qu'il supposait être la ruine de mon mari. Il n'était pas affligé de l'affection de celui qui lui avait fait du bien et uniquement du bien durant toute leur communication. Frère Lord Bohod parla, rigola, et était dans la joie devant les caractéristiques humiliantes du cas de mon mari. Mon cœur était presque brisé. Pourtant, si j'étais à sa place, tout m'aurait apporté les caractéristiques désagréables de ce qui m'a presque rendu folle. Autrement dit, démente. J'ai essayé, chez frère Abbey, d'agoniser avec Dieu en sa faveur. Mais frère Andrews pensait que cela ne faisait que le blesser. Il doit agir lui-même, pensa-t-il. Il considérait sincèrement les choses ainsi, mais pas correctement. Si tous ses frères, d'un cœur sincère, sans égard à l'iniquité dans leur cœur, avaient davantage prié, affligé leur âme et parlé moins, Dieu aurait été plus satisfait. Le moment où l'Église fut coupable de péché fut lorsque mon mari tenta de donner suite au témoignage que Dieu avait rendu et commença, dans sa faiblesse, à se rendre à Wint durant l'hiver froid. C'est alors que Satan attisa les passions et qu'il y eut une séparation entre nos sentiments et nos intérêts. Aussi, nos amis devinrent nos ennemis. Ils étaient de cette classe que Paul appelle « faux frères », ce qui nous a placés dans des périls plus grands que ceux que nous n'avons jamais connus dans notre vie. Si c'était un ennemi qui avait fait cela, alors nous aurions pu le supporter. Mais ce furent nos amis habituels qui s'étaient assis à notre table et avaient marché avec nous jusqu'à la maison de Dieu. Parmi les pionniers de notre mouvement, il y avait des faux frères. Et ces hommes n'étaient pas des hérétiques, des personnes qui enseignaient des erreurs. Ces hommes enseignaient la vérité présente. Mais l'amour fraternel faisait défaut. Et ils ont été les instruments de Satan pour nuire au courage, à la réputation et à l'œuvre de fidèles serviteurs de Dieu. Et j'aimerais souligner également que ces hommes étaient entrés dans le ministère sous les encouragements et le soutien de James et Ellen White. Et ne voilà-t-il pas qu'ils ont ensuite accablé les personnes même qui les avaient soutenues dans le ministère, les personnes même qui les avaient fait rentrer dans le ministère. Je ne pense pas que nous sommes meilleurs que nos pères. Je ne pense pas que nous sommes meilleurs que nos pionniers. Car, sauf erreur de ma part, nous sommes toujours dans la période de l'église de Laodicée. Et cet état d'esprit, à savoir le manque d'amour fraternel, est le plus grand virus qui sévit dans l'église de la vérité présente. Et il nous a très clairement été dit qu'à l'avenir, ces choses seront ainsi. Dans la lettre 133 de l'année 1897, au paragraphe 23, nous devons garder à l'esprit qu'il y a une lutte offensive à mener. Nous serons obligés de travailler au milieu d'obstacles et de conflits. Nous aurons à lutter contre l'ignorance et les concepts terrestres bas de gamme. Le feu commun et terrestre, qui n'a aucun lien avec le feu sacré allumé par Dieu, la duplicité et la fierté d'opinion, se dressera pour barrer la voie à l'avancement de la lutte divine. Il y aura des dangers sur la terre, sur la mer, mais le plus grand de tous les dangers sera amené par de faux frères. Privations, épreuves, discordes et conflits seront sur notre route pour semer la confusion et le découragement. Continuons-nous à penser que cela ne nous concerne pas? Après tout ce qu'on vient de lire ici? Prêtons attention à la suite. Dans The Review and Herald, le 8 janvier 1884, paragraphe 15, tous les noms inscrits dans les registres de l'Église n'apparaîtront pas finalement dans le livre de vie de l'agneau. Il y a de l'ivraie parmi le blé. Il y a des trompeurs, des accusateurs, des traîtres dans le camp. Ceux-ci vous blesseront, vous présenteront sous un faux jour et vous accuseront faussement. Ce sont de faux frères, fourrant leur nez partout, indiscrets, des pierres d'achoppement pour les autres. Ils font une œuvre pour Satan avec beaucoup plus de succès que s'ils n'étaient pas liés à l'Église. Certains qui n'ont pas de discernement spirituel ne parviendront pas à distinguer entre le faux et le vrai et auront une haute estime pour ceux qui n'ont aucun lien avec Dieu. Ceux qui auront été indifférents et négligents et qui n'ont pas réussi à grandir dans la grâce et dans la connaissance de la vérité seront trompés. Ils ne comprennent pas les premiers principes de la doctrine et de l'expérience qui assurent à l'homme la perfection du caractère chrétien. Je tiens à signaler que cette déclaration fut écrite, ou à rappeler que cette déclaration fut écrite en 1884 par un auteur du nom de Ellen White. Trouvez-vous cette déclaration exacte? Comme nous le disions, les faux frères ne sont pas simplement ceux qui enseignent de fausses doctrines. Et l'histoire nous l'a prouvé. Mais il s'agit de frères ou de sœurs même, on peut l'appliquer aux sœurs, qui, sous le nom de frères, n'ont aucune douleur pour vous blesser ou vous présenter sous un faux jour. Et vous accuser faussement. Ces individus, dit la messagère, sont des pierres d'achoppement pour les autres. Et ce sont des ouvriers de Satan. Et ils font plus de mal à l'Église que s'ils n'étaient pas liés à l'Église. Et lorsqu'on n'a pas de discernement spirituel, on tombe sous leur influence. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas grandi dans la connaissance de la vérité. On a la connaissance de la vérité, mais on n'a pas grandi dans la grâce et dans la connaissance de la vérité. C'est pour ça qu'on est trompé, en fait. C'est quoi le vrai problème? La phrase finale nous le dit. Ils ne comprennent pas les premiers principes de la doctrine et de l'expérience qui assurent à l'homme la perfection du caractère chrétien. On ne parle pas de connaissance intellectuelle, là on parle de connaissance expérimentale en fait. On peut même avoir des connaissances sur la doctrine, mais ne pas connaître les rudiments. Quels sont ces rudiments? Quels sont-ils? On va le voir dans quelques instants. Mais j'aimerais juste vous partager un petit récit. Lors d'un camp meeting, il y avait trois générations de prédicateurs. La deuxième et la troisième génération étaient entrées dans le ministère sous la tutelle de la première génération. Et un jour, l'un des prédicateurs de la deuxième génération est venu voir un prédicateur de la troisième génération pour lui dire des choses qu'il avait envie de lui dire concernant un sujet. Et dans les propos qu'il a tenus au prédicateur de la troisième génération, donc le plus petit, première, deuxième, troisième, première génération plus grand, deuxième moyen, troisième plus petit. Donc le prédicateur de la deuxième génération, lorsqu'il a parlé au prédicateur de la troisième génération, en fait, il l'a présenté sous un faux jour. le prédicateur de la première génération, par le biais de qui Dieu les avait tous les deux mis dans le ministère. Pour le prédicateur de la troisième génération, c'était quelque chose d'assez spécial, voyez-vous, car celui qui était en face de lui disait des choses qu'il n'aurait pas pu dire en face du prédicateur de la première génération. Bien évidemment, c'est toujours plus facile de dire quelque chose de mauvais sur quelqu'un quand on est dans le dos de cette personne, en fait. Et dès ce moment-là, le prédicateur de la troisième génération, il a pris des distances. Ou tout du moins, il était en garde, sur ses gardes, vis-à-vis de ce faux frère, qui n'avait eu aucun scrupule, en fait, à lui dire du mal dans le dos même du prédicateur, qui les avait tous les deux encouragés dans le ministère. Le principe est assez simple. C'est que si je suis capable de dire quelque chose de mal dans le dos de X devant Y, eh bien, Y doit alors réaliser que je n'aurai alors aucun mal non plus, aucun scrupule à pouvoir dire dans son dos du mal de lui à X. Comprenez un peu? Lettre 135 de l'année 1895, paragraphe 4. Cette chose durait depuis des années, et les paroles prononcées par les ministres ne profitaient pas à ceux qui entendaient la vérité, n'étant pas mêlés de foi. Nous lisons dans les Écritures que, dans certaines villes, le Seigneur ne pouvait pas accomplir beaucoup d'œuvres puissantes en raison de leur incrédulité. Il était assez difficile de rencontrer l'opposition des faux bergers, comme il l'avait rencontré à Ashfield, sans les difficultés supplémentaires des faux frères dans l'Église. Lorsque l'Église sera soumise à l'influence modelante du Saint-Esprit de Dieu, alors le Seigneur pourra les utiliser comme ses agents pour travailler au salut des âmes. Mais la religion de certains hommes consistait à chicaner, critiquer et à entraver l'influence de l'Esprit de Dieu, s'opposant directement à l'œuvre de Dieu. Ils travaillaient simplement du côté de Satan et étaient ses alliés alors qu'ils prétendaient croire à la vérité. Lorsque j'ai une religion qui consiste à chicaner, c'est-à-dire à trouver à chercher la petite bête, à critiquer, je ne suis pas en train de travailler au salut des âmes, en fait. Je peux prêcher. Je peux exercer le ministère à un degré quelconque. Mais quel témoignage que je rends, en fait? Quel témoignage que je rends? Le témoignage de Jésus me dit que je suis un ouvrier de Satan quand j'agis comme ça. Et la seule façon pour moi, pour l'Église, pour n'importe qui en fait, de pouvoir sortir de cet état et de se soumettre à l'influence modelante du Saint-Esprit de Dieu. Et c'est alors, ce n'est qu'alors à ce moment-là, qu'on pourra être des agents, des instruments entre ses mains pour travailler au salut des âmes. À quoi ça sert de prêcher l'évangile pour des gens? Et une fois que ces gens-là sont touchés, on les empoisonne par notre état d'esprit. À quoi ça sert? Moi, personnellement, je ne vois pas à quoi ça sert. Dans manuscrit 71 de l'année 1902, paragraphe 3, il est dit, tout comme dans la parabole, il y avait de l'ivraie parmi le blé, ainsi il y a des membres indignes dans l'Église. Les épreuves qui, à cause de faux frères, frappent ceux qui essaient sérieusement de faire la volonté de Dieu, sont souvent très sévères. Il y a ceux qui sont liés à nos institutions qui s'efforcent d'introduire des principes erronés. Leur avis et leur conseil ne sont pas en harmonie avec la parole de Dieu. Certains séparent des amis par leurs critiques acerbes. Ceux qui se soumettent au contrôle de Satan sont sévères et cruels. Leur chef était autrefois un ange exalté dans les cours célestes. Là, il s'est rebellé contre Dieu. Ses pouvoirs de tromperie étaient si forts que de nombreux anges l'ont rejoint dans la rébellion. Avec ses sympathisants, il a été chassé du ciel pour ne plus jamais y occuper sa position sainte et exaltée. Il travaille toujours avec une énergie infatigable contre le gouvernement de Dieu. À travers les êtres humains qui s'unissent à lui, il réalise ses projets. Les faux frères donnent de mauvais conseils. Il sépare des amis. Et ont l'habitude de critiques acerbes. Ils peuvent ne pas être cruels ou sévères en apparence. Mais c'est plus souvent aussi dans votre dos qu'ils manifestent cela. Car la rébellion de Satan n'a pas explosé au grand jour, en fait. Tout d'abord, ça n'a pas éclaté comme ça, en fait. Il a d'abord commencé par prendre son téléphone et appeler des gens. Oui, il a d'abord commencé par aller voir les gens individuellement, en fait. Pour leur parler. De manière à essayer de rallier les gens de son côté, en fait. Dans The Review and Herald, le 11 décembre de l'année 1888, paragraphe 15, il est dit « Certains dans l'Église se révéleront être de faux frères. Leur foi, leur amour, leur patience... leur constance seront testées et éprouvées. Et s'ils ne sont pas enracinés et fondés dans la vérité, s'ils ne sont pas remplis des fruits de la justice qui sont par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu, ils seront offensés par les réprimandes et les avertissements, n'humilieront pas leurs âmes devant Dieu, reculeront et ne marcheront plus avec ceux qui aiment la vérité. Le peuple doit être éveillé au danger du temps présent. » En recevant l'annonce du titre du sermon de ce matin, ce que j'en vois quand j'arrive à terminer mon message suffisamment tôt, le vendredi, qu'on communique le titre du message. Eh bien, quelqu'un m'a dit, mais tu n'as pas peur des conséquences de ton message? Ah, j'ai peur, oui. J'ai peur d'être infidèle à Dieu et des conséquences qu'il y aura si je ne suis pas fidèle à Dieu dans mon message. Parce que je sais que le message que je donne en ce matin, c'est un message qui vient de Dieu. Et que j'en ai besoin. Et peut-être que vous en avez besoin aussi. Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, j'en ai besoin. Les personnes qui se scandaliseront sur ce message, eh bien, il est dit d'eux, ils seront offensés par les réprimandes et les avertissements, n'humilieront pas leurs âmes devant Dieu, reculeront et ne marcheront plus avec ceux qui aiment la vérité. Le fait de ne pas s'humilier, le fait de ne pas reconnaître qu'on a tort, en fait, ne pas reconnaître qu'on a été faux. Dans The Southern Watchman, le 24 mai de l'année 1904, paragraphe 10, il est dit « Tout succès de la vérité décourage les ennemis de Dieu, et ils sont parfois obligés de reconnaître que c'est son œuvre, alors qu'ils la contestent d'autant plus pour cela. Les faux frères continueront d'augmenter. Ceux à qui Dieu a envoyé des avertissements et des reproches, mais qui, rejetant le message envoyé par le ciel, prête attention aux conseils de ses ennemis, sont la plus dure des épreuves pour ses fidèles serviteurs. » Et on cite Proverbe 28, verset 4, « Ceux qui abandonnent la loi louent les méchants. » Si vous renversez, lorsqu'on loue les méchants, ceux qui font la méchanceté, en fait, on abandonne la loi, en fait. Gardons ça à l'esprit. Parce qu'à la fin du message, on va voir ça en détail en plus. Les faux frères reconnaissent l'œuvre de Dieu. Ils savent voir que telle œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Mais pour autant, ils sont en quelque part enragé en fait. Justement, parce que c'est l'œuvre de Dieu. Mais encore une fois, remarquez que ceux à qui Dieu a envoyé des avertissements et des reproches, mais qui rejettent le message envoyé par le ciel, prêtent attention aux conseils de ses ennemis. Ce sont les plus dures épreuves. Les serviteurs de Dieu. Il nous faut réaliser que la disparition des faux frères laissera place aux vrais. Dans Testimonies for the Church, volume 5, à la page 81, paragraphe 1 et 2, il est dit « Le temps n'est pas loin où chaque âme sera testée. La marque de la bête nous sera imposée. Ceux qui ont pas à pas cédé aux exigences du monde et se sont conformés aux coutumes du monde, ne trouveront pas difficile de céder au pouvoir en place plutôt que de se soumettre à la dérision, à l'insulte, à la menace d'emprisonnement et à la mort. La lutte est entre les commandements de Dieu et les commandements des hommes. Pendant ce temps, dans l'Église, l'or sera séparé des scories. La vraie piété sera clairement distinguée de son apparence et de ses guirlandes. Beaucoup d'étoiles que nous avons admirées pour leur éclat s'éteindront alors dans l'obscurité. La paille comme un nuage sera emportée par le vent, même à des endroits où nous ne voyons que des sols riches en blé. Tous ceux qui assument les ornements du sanctuaire, mais qui ne sont pas revêtus de la justice de Christ, apparaîtront dans la honte de leur nudité. Lorsque des arbres sans fruits sont abattus car encombrant le sol, Lorsque des multitudes de faux frères se distinguent des vrais, alors ceux qui sont cachés apparaîtront. Et, avec des hosannas, ils se rangeront sous la bannière du Christ. Ceux qui ont été timides et méfiants se déclareront ouvertement pour le Christ et sa vérité. Les plus faibles et les plus hésitants de l'Église seront comme David, disposés à faire et à oser. Plus la nuit est profonde pour le peuple de Dieu, plus les étoiles sont brillantes. Satan harcèlera cruellement les fidèles, mais au nom de Jésus, ils sortiront plus que vainqueurs. L'Église du Christ apparaîtra alors belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible sous ses troupes sous leur bannière. Notez le rapprochement qu'il est fait ici entre les faux frères et la prise de la marque de la bête. Le fait d'obtenir, de prendre la marque de la bête, de la recevoir. C'est parce que j'aurais été un faux frère tout au long de ma vie et que je ne me serais pas repenti d'avoir été un faux frère qu'au final, je vais prendre la marque de la bête. C'est pour ça qu'au départ, nous disions en fait que ça converge. Du moment qu'on n'est pas dans le vrai, que ce soit en doctrine ou en amour, eh bien, on se retrouve avec le faux. Deux camps, nous dit le message des trois anges. Il n'y en a pas trois, il y en a deux, pas plus. Je peux aujourd'hui avoir des apparences, toutes sortes de choses. Mais lorsque la dernière crise fondra sur moi, c'est là que sera révélé qui je suis vraiment. C'est là que sera révélé si j'ai la justice du Christ ou pas. Les frères sont avant tout ceux de Jésus. Et Jésus nous a dit qui sont ses frères. En Matthieu 12, versets 46 à 49, « Et comme Jésus parlait encore au peuple, sa mère et ses frères étaient dehors, cherchant à lui parler. Et quelqu'un lui dit, « Voici ta mère et tes frères sont là dehors, qui demandent à te parler. » Mais il répondit et dit à celui qui lui avait parlé, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Et étendant sa main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, c'est celui-là qui est mon frère, ma sœur et ma mère. » Remarquez que la femme qui a donné naissance à Jésus sur la terre est venue avec ses frères, que l'on pourrait appeler demi-frères. Et ils sont venus pour voir Jésus. Et on lui a dit cela. Mais Jésus sait qui est son vrai père. Et il a voulu exprimer que les liens de la foi sont plus forts que les liens du sang. Et d'ailleurs, au passage, en disant cela, il est venu casser. Il a, au préalable, par avance, détruit l'idée qu'il nous faut donner une quelconque considération à Marie, puisque même Marie était inclue là-dedans. Lorsque les catholiques viennent jusqu'à adorer Marie, en fait, ce passage-là vient détruire cela, en fait, vient anéantir cette conception. Ce sont ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Dans les cieux, comment la volonté de Dieu est exprimée? Je veux dire, dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. N'est-ce pas dans les 10 commandements? N'est-ce pas dans les cieux là la volonté de Dieu? Oui, mes amis. L'obéissance aux 10 commandements. lesquels sont exprimés de la façon suivante. Matthieu 22, versets 36 à 39. « Maître, quel est le grand commandement de la loi ?» Jésus lui dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. » Notez qu'il n'est pas dit qu'il est différent, mais qu'il lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Ne pas aimer est loin d'être une petite chose. Cela constitue un meurtre, en fait. En effet, en Jean 3, versets 14 à 19, il nous est dit, « Quand nous aimons nos frères, nous connaissons que nous sommes passés de la mort à la vie. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. À ceci, nous avons connu la charité de Dieu, en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Or, celui... Or... Ok, verset 18. Mes petits enfants, n'aimons pas de parole, ni de la langue, mais en action et en vérité. Car c'est en cela que nous connaissons que nous sommes de la vérité et que nous assurerons notre cœur devant lui. Lorsque je n'ai pas d'amour pour mon frère, pour ma sœur, un amour sans hypocrisie, lorsque je ne suis pas rempli de cet amour-là, parce que lorsque je ne suis pas rempli, il faut comprendre qu'il n'y a rien qui est vide, en fait. Lorsque vous remplissez un verre à moitié, le verre est quand même rempli. Il y a une partie, il est rempli d'eau, l'autre partie, il est rempli d'air. Si je ne suis pas rempli d'amour fraternel, il y a de la place, alors, pour l'hypocrisie, la duplicité, et à ce moment-là, pour Satan, en fait. L'Écriture me dit que je suis mort. Mort dans quoi? Mort dans mes péchés, en fait. Dans mes péchés, tout simplement. Ce n'est que lorsque nous aimons nos frères que nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Car ne pas aimer constitue un meurtre. Je vous inviterai, comme je l'ai fait, à lire le chapitre 27 de l'ouvrage Patriarches et Prophètes, où il nous est détaillé l'explication de la loi, des 10 commandements. Vraiment, je vous invite à le faire. Car à chaque fois que moi je le fais, il y a toujours de grosses remises en question dans ma vie. Et prenons le temps juste dans cette prédication de lire deux descriptions de 2 commandements. Ils ont été écrits sur la seconde table. Les 4 premiers concernent Dieu et les 6 derniers concernent notre prochain. Lisons 2 des 6 derniers. Patriarches et Prophètes à la page 281, paragraphe 2 et 3. Tu ne tueras point. Toute injustice tendant à abréger la vie, tout esprit de haine ou de vengeance, toute colère qui pousse à commettre des actions préjudiciable au prochain ou même seulement à lui désirer du mal. Car quiconque hait son frère est un meurtrier, 1 Jean 3, 15. Tout égoïsme qui fait négliger les soins dus aux indigents et aux malades, toutes ces choses constituent à des degrés divers des violations du 6e commandement. Il ne s'agit pas simplement de prendre un couteau pour tuer quelqu'un. Le simple fait d'avoir de la haine Viens faire de moi un meurtrier. Le simple fait d'être en colère. Pas simplement la colère. Parce que la colère en soi n'est pas un péché. Tel qu'on peut le lire en acte Éphésiens 4, verset 26. Mais une colère qui pousse à commettre des actions préjudiciables au prochain ou même seulement à lui désirer du mal. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais nous ne l'avons pas souligné tout à l'heure. Mais l'arbre Bohod s'était construit, a dit la messagère, sur le malheur de James White. Il s'était construit sur le malheur de James White. De quoi parlait-elle ici? Dans le ministère. Autrement dit, il était content de voir James White comme ça, en fait. Parce qu'il savait que tant que James White était comme ça, eh bien, la place serait à lui. J'espère que ce frère s'est repenti. Parce que s'il ne s'est pas repenti, on aura alors des surprises dans le ciel. Parce qu'on peut ne pas adorer une idole, on peut adorer le bon Dieu, non seulement le bon Dieu, mais le vrai Dieu, le seul vrai Dieu. D'accord? Et soi-disant observer les quatre premiers commandements. Mais s'il advienne que je transgresse un seul des six derniers, mes amis, pensez-vous que je peux rentrer au ciel? Pensez-vous que je suis un observateur des commandements de Dieu, de la foi de Jésus? Autrement dit, un véritable croyant dans le message des trois anges. Considérons un autre commandement. Patriarche et prophète, page 282, paragraphe 1 et 2. Tu ne diras point de faux témoignages contre ton prochain. Sous le titre de faux témoignages viennent se placer toute déclaration inexacte sur n'importe quel sujet, toute tentative et tout dessein de tromper notre prochain. Par un regard, un mouvement de la main, une expression du visage, on peut mentir aussi faussement que par des paroles. Toute exagération intentionnelle, toute insinuation ayant pour but de donner une idée erronée, voire le récit de certains faits présentés de manière à induire en erreur, constitue un mensonge. Ce précepte interdit tout ce qui tend à compromettre la réputation du prochain par l'altération de la vérité, par des soupçons nuisibles, par la calomnie ou la médisance. La suppression intentionnelle de la vérité qui porterait préjudice à quelqu'un est elle-même une violation du neuvième commandement. Les faux frères, les frères trompeurs, menteurs. C'est pour cela que nous lisons ce commentaire. Car en plus de ne pas aimer quelqu'un, de ne pas aimer un frère, ce qui fait de moi un meurtrier, eh bien, il y a aussi l'aspect fallacieux. Et lorsque je suis concerné par l'une de ces déclarations, l'un de ses degrés de transgression. Je me retrouve alors dans la catégorie des faux frères. Et mes amis, permettez-moi de vous dire que Dieu a cela en horreur. Ce n'est pas une petite chose. C'est pas une petite chose. Dieu, il a ça en horreur. Comme on peut le lire en Proverbes 6, versets 16 à 19, il y a six choses que hait l'Éternel, même sept qui lui sont en abomination. Les yeux hautains, la langue fausse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui forme des mauvais desseins, les pieds qui se hâtent pour courir au mal, le faux témoin qui prononce des mensonges et celui qui sème des querelles entre les frères. Dieu a ça en horreur. C'est une abomination. Au même titre que l'homosexualité. Au même titre que ce genre de choses, voyez-vous, c'est une abomination devant Dieu, mes amis. Bien souvent, on critique les homosexuels, toutes sortes de choses. Alors qu'aux yeux de Dieu, en fait, notre péché est aussi grand que le leur. Jésus a ça en horreur. Jésus qui est la parole de Dieu, il a ça en horreur. Savez-vous qu'est-ce qu'il va faire? Il a dit qu'est-ce qu'il va faire. Je te vomirai de ma bouche. Il a ça en horreur à tel point que pour les non-repentants de la Odyssée, il dit « Je te vomirai de ma bouche ». Pourquoi Jésus vomira-t-il celui qui sème des querelles entre les frères? Sa réponse se trouve en Matthieu 25, verset 40. Et le roi répondant leur dira, « Je vous le dis en vérité, en tant que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, Vous me les avez faites à moi-même. Le frère dans le dos de qui j'ai parlé, ou la sœur dans le dos de qui j'ai parlé, peut ne pas savoir que j'ai parlé dans son dos. Je peux même avoir demandé à la personne à qui j'ai mal parlé de lui de se taire pour ne pas qu'il sache que j'ai mal parlé dans son dos. C'est très bien, si je peux me permettre de dire ça. Mes amis, Jésus a tout vu, en fait. Et c'est à Jésus. C'est Jésus qui a pris ça, en fait. C'est à Jésus que j'ai fait ça, en fait. C'est à Jésus que j'ai fait ça. C'est pour cela que Jésus vomira ce genre d'individu s'il ne se repent pas, en fait. En 1 Jean 4, versets 7 à 13 et versets 19 à 21, il est dit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car la charité vient de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Celui qui n'aime point n'a point connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu envers nous a paru en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. En ceci est l'amour. C'est que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais que c'est lui qui nous a aimés et a envoyé son Fils en propitiation pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est accompli en nous. En ceci, nous connaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. C'est qu'il nous a donné de son esprit. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime point son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous tenons ce commandement de lui, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Notez que la façon dont nous devons aimer. Il est dit comme Dieu. On prend l'amour de Dieu en référence. Et comment Dieu nous a aimés? Il n'a pas attendu qu'on l'aime, en fait. Il n'a pas attendu qu'on soit aimable pour pouvoir nous aimer et nous le manifester en nous donnant son Fils. Mais il l'a d'abord fait. Et c'est ainsi que nous devons avoir de l'amour fraternel. Je peux prendre pour excuse, « Ah oui, mais ce frère-là, il m'embête. Ah, cette soeur-là, elle m'embête. Ah, pour x, y raison. » Fondée ou non, d'ailleurs. Mais je n'ai pas d'excuse devant Dieu, en fait. Parce que Dieu m'a donné un exemple. Dieu m'a donné un exemple. Et c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Il n'est pas dit que c'est pour les ministres de l'Évangile ici, les prédicateurs, les pasteurs. C'est pour tout le monde. L'amour de Dieu s'étend à tout le monde. Donc, une fois que nous recevons son amour, nous devons d'aimer comme il nous a aimés, en fait. Autrement, nous serons menteurs. Et nous continuons à mentir. À nous mentir les uns aux autres, comme on l'a vu tout à l'heure dans le commentaire. Nous allons prendre notre dernier texte, qui se trouve en 1 Jean 5, versets 1 et 2. Quiconque croit que Jésus est le Christ est engendré de Dieu. Et quiconque aime Dieu, qu'il a engendré, aime aussi celui qui est engendré de lui. Nous connaissons en ceci que nous aimons les enfants de Dieu. C'est que nous aimons Dieu et que nous gardons ses commandements. Le véritable amour pour Dieu, mes amis, se manifeste par notre amour pour les autres. Notamment pour ses enfants. Ce n'est pas une option. Arriver au stade où on en est, de cette présentation, qui touche à son terme, ce n'est pas une option. La question qu'il faut que je me pose maintenant, c'est dans quelles conditions je souhaite être? Dans quelles conditions je souhaite être? Est-ce dans la condition de la Odyssée? Où l'esprit des faux frères est naturellement présent? Ou est-ce dans la condition de Philadelphie, où Dieu donne la grâce et la force de pouvoir aimer sincèrement? Si je désire me détourner du sentier laodicéen, il me faut alors me repentir, dit le Seigneur. Et donc du zèle et repens-toi. De manière à pouvoir un amour fraternel sincère. Comme nous l'avons vu, les faux frères sont ceux qui mettent l'Église en danger par de faux enseignements ou par la transgression de l'un des 10 commandements, notamment l'un des 6 derniers, qui condamne tout ce qui est contraire à l'amour pour le prochain. Avant d'appeler quelqu'un mon frère ou ma sœur, je devrais préalablement, pour ne pas être trouvé menteur devant Dieu, mais aussi devant les hommes, m'assurer de m'être sincèrement repenti du tort que je lui ai causé. Car il pourrait ne pas savoir le tort que je lui ai causé. Il pourrait ne pas être au courant que j'ai fait telle et telle chose dans son dos. Tout comme aussi, il pourrait être au courant, mais il fait semblant de ne pas savoir. Quel que soit le cas, que le frère ou la sœur sache ou pas, pour ne pas être trouvé menteur dans l'Église, pour ne pas être vu comme un laodicéen par Jésus, il me faut sincèrement me repentir de ça. Car cela fait partie de la préparation de ceux qui veulent garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus lors de la crise finale, mes amis. Puisse Dieu nous bénir. Amen. Je vous invite à prier pour clore. Notre Dieu, notre Père céleste, nous sommes infiniment émus de par l'amour que tu nous as manifesté. Nous qui t'avons si souvent blessé, nous qui t'avons si souvent déplu en blessant Jésus, tu as pris pitié de nous. Tu as eu compassion de nous et tu nous pardonnes. Et tu désires aussi nous purifier. Tu désires notre bien et tu désires nous voir avec toi. Notre Père Céleste, donne-nous de cet amour afin que nous puissions aimer les autres, notamment les frères, afin que nous puissions accéder au niveau supérieur de l'amour agapé. Car sans cet amour fraternel, il nous sera impossible d'avoir l'amour agapé. Aide chacun d'entre nous, Père, à pouvoir être en harmonie avec toi, que nous puissions individuellement purifier nos cœurs de tout esprit qui ne serait pas de toi, afin que nous puissions être tes instruments pour accomplir une grande œuvre sous la terre, car ce n'est qu'alors que nous pourrons éclairer la terre de ta gloire, car tu nous auras revêtus de ton caractère. Nous ne souhaitons pas travailler en vain, nous ne souhaitons pas prêcher un évangile sans Christ, sans l'amour de Christ, mais nous voulons que tu puisses être glorifié. Alors, que nous puissions nous repentir des torts que nous avons causés, à un degré ou à un autre, que nous puissions avoir cette expérience authentique, sincère, fervente, devant ta face. Et nous verrons alors ta gloire se manifester. Bénis ton peuple. C'est la prière que nous t'avons adressée en cet instant. Au nom de Jésus. Amen.
Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.